L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 20h46, le 12 février 1946. Nous sommes à Paris. La guerre vient tout juste de s'achever et quelques habitués profitent de leur liberté retrouvée au fond d'une cave de Saint-Germain-des-Prés. Assis sur des chaises en bois, ils attendent. Ils attendent l'heure. L'heure où celui dont tout le monde parle fera son apparition. 20h46, c'est leur H dans mon histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un écrivain, poète, parolier, chanteur, jazzman et bien d'autres choses encore. L'auteur et interprète du Déserteur, l'auteur de L'écume des jours ou encore de J'irai cracher sur vos tombes. Un homme aux mille pseudos, selon ses domaines d'activité. Prince de l'absurde et de la fête, surréaliste et inventeur, et roi. Roi de Saint-Germain-des-Prés. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les pas de Boris Vian. De son heure de gloire dans les caves de Saint-Germain-des-Prés à ses déboires entre ombre et lumière. Il fait sombre à l'intérieur. Il est encore tôt. Pourtant, les cendriers sont déjà prêts à déborder. La pièce, déjà, est bleue de fumée. Les cendres maculent les nappes bordeaux, tachées, abîmées. Ah, c'est qu'elles ont vécu, ces nappes. Et qu'elles en ont vu d'autres, des soirées comme celle à venir. Comme toujours, les discussions vont bon train. Et les verres se vident aussi vite qu'ils se remplissent. Hé, garçon ! Garçon, une autre bière, s'il te plaît ! Au milieu des tables, une petite scène improvisée et quelques instruments trônent. Les impatients battent déjà du pied au rythme de la musique qui trotte dans leur tête, qui coule dans leurs veines. Le jazz. Tous les soirs ou presque, ils sont là, au rendez-vous. Ils n'ont pas de questions à poser, ils savent très bien ce qui va se passer. Pourtant, tous les soirs de concert, les soirs de musique, les soirs de fête, c'est toujours cette même excitation. Cette attente, cette impatience, cette hâte. Tous aspirent à 21h, l'heure à laquelle résonnent presque invariablement les premières notes.
Hé, Boris ! « Boris, c'est ton tour ce soir !»
interpelle un jeune garçon. Boris. Boris Vian est au fond de la cave, presque dans le noir. Bon, tiens, je ne l'aurais d'ailleurs peut-être même pas remarqué, et sans doute que vous non plus. Il porte un costume gris, coupé large, comme cela se faisait dans les années 40. Et une cravate, toujours une cravate. Ah, il faut dire que le jeune homme est plutôt beau garçon. Les cheveux peignés en arrière, des traits fins, presque enfantins. Angélique. Le nez droit, son sourire semble comme cassé, hésitant, au bord du sanglot. Le regard est profond, précis, et porte un brin de mélancolie. Il se tourne vers celui qui semble le mettre au défi. Ce soir, comme tous les soirs, c'est le tour du jazz, mon ami. C'est toujours le tour du jazz et rien d'autre. Boris se lève. Fait quelques pas jusqu'au centre de la pièce et attrape la trompette déposée sobrement sur un tabouret. Il prend une inspiration, porte l'embouchure au coin des lèvres, ferme les yeux, et puis se lance. Rapidement, les autres musiciens s'engouffrent dans la cave et prennent place. Les curieux aussi affluent pour écouter la musique, faire la fête et pour faire vivre le jazz. Saxophone, trombone, batterie, piano. Le rythme s'intensifie, la tension monte, elle est palpable. Dans le club de Saint-Germain, il fait de plus en plus chaud, tandis que les jazzmen redoublent de génie et d'inventivité, se complétant, s'écoutant, enchérissant les uns sur les autres. Toujours, toujours en improvisant, pour aller toujours plus haut. Bientôt, le public ne tient plus. Il est là par amour de la musique, mais également pour danser. Des couples se forment dans la fumée ambiante, costumes, robes longues, épaules dénudées, se mélangent dans la chaleur frénétique. Et nous voilà, vous et moi, en plein cœur de la fournaise des caves de Saint-Germain-des-Prés. Mais qui est ce Boris? Vous demandez-vous peut-être. Si jeune, tous disent pourtant que c'est son heure de gloire. Et peut-être même qu'il n'a jamais été si bon, transcendé, porté par sa musique que ce soir. Alors que fait-il dans cette cave, une trompette à la main? Faisons quelques pas ensemble dans les rues de Paris et laissez-moi tout vous expliquer. Nous sommes en 1946. La guerre qui déchirait l'Europe s'est achevée il y a à peine 2 ans. Partout règne une euphorie, celle de la liberté, celle de la vie qui a repris son cours. Au même instant, un quartier prend son envol et devient peu à peu un haut lieu de vie intellectuelle et culturelle parisienne. Ce quartier, vous le connaissez, c'est Saint-Germain-des-Prés. Il y a peu, un club de jazz a ouvert ses portes dans le sous-sol d'un hôtel rue des Carmes, à quelques enjambées du Panthéon. Le caveau des Lorientais, ou encore la cave des Azous. Très vite, ce nouveau bar est pris d'assaut et devient le refuge d'une jeunesse, un brin contestataire, portant en elle la fièvre, la fête et l'amour du jazz. Les Azous, ah voilà. J'en vois un au fond de la salle, regardé avec son veston long et cintré, avec les grands carreaux à l'esprit anglais ou américain, patrie dont les Azous s'inspirent pour s'habiller. Ce pantalon trop large, cette cravate, vous voyez, ce sens de l'élégance, du mauvais goût, provoquant et savamment étudié. Ah, et voilà qu'il parle. Il y aura du monde ce soir, patron? Comme la semaine passée? Vous voyez ce snobisme? Voilà, ça c'est un Zazou. Boris n'en est pas vraiment un, mais il a adopté une attitude voisine à celle de ces jeunes qu'il fréquente, qui sont très très swing et qui, comme lui, aiment le jazz. Là-bas, on danse le lindy hop ou le bebop. Boris joue d'ailleurs dans l'orchestre. Ils y passent tout leur temps, Boris, mais aussi ses amis, Jean-Paul Sartre ou encore Raymond Queneau. Mais n'allons pas trop vite. À l'époque, Boris Vian, a tout juste 26 ans et a toujours baigné dans la musique. Né le 10 mars 1920, à Ville-d'Avray, en Île-de-France, il est le deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Dans la villa familiale, la vie est douce et insouciante. Entre les services du chauffeur privé, du professeur particulier ou du coiffeur à domicile. Ce cadre opulent laissa Yvonne Vian, mère de famille, l'occasion d'exercer sa passion. Et sa passion à elle, c'est la musique. Toute son enfance, Boris est bercé par les notes d'Éric Satie, Claude Debussy ou encore Maurice Ravel, interprété au piano ou à la harpe par sa mère. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais les choses se compliquent en 1929, alors que le jeune Boris Vian a 9 ans. À New York, la bourse s'effondre, marquant le début de la Grande Dépression, la plus grande crise économique du XXe siècle. Craque boursier qui ne manque pas d'avoir des effets jusqu'en Europe et de ruiner la famille Vian. Elle est forcée d'abandonner sa luxueuse demeure et de déménager à quelques pas de là, dans la maison du gardien. Malgré les inquiétudes de la mère Vian, rien n'entache la joie de vivre des enfants et leur imagination débordante. Au milieu des nénuphars, ils passent des après-midi entiers aux berges des étangs environnants pour pêcher des grenouilles avec les enfants du coin. Pour eux, tout est jeu et perspective d'amusement. C'est alors qu'un nouveau malheur s'abat sur la famille et trouble le fleuve tranquille de leur existence. À 12 ans, Boris attrape une angine infectieuse. La convalescence est longue, douloureuse. Après plusieurs semaines et de nombreuses complications, il faut se rendre à l'évidence. Boris ne s'en remet pas totalement. La maladie lui cause des rhumatismes articulaires qui provoquent une insuffisance aortique. Sa vie prend un tout autre tournant. Fini les après-midi au bord des étangs. Boris est soudainement cantonné aux longues heures enfermées dans du coton, en raison de sa santé fragile. Ils avaient toujours peur pour moi. Je ne pouvais pas me pencher aux fenêtres. Je ne traversais pas la rue tout seul. Il suffisait qu'il y ait un peu de vent pour qu'on me mette ma peau de bique. Fera-t-il dire des années après à son personnage Wolf, dans son roman intitulé « L'herbe rouge ». Oui. Oui, le petit Boris finira par écrire des livres, mais pas que, mais pas que. Mais à nouveau, chaque chose en son temps. N'allons pas trop vite et revenons au petit Boris Vian, dont rien, je dis bien rien, n'entache la créativité et l'inventivité. Ni la surprotection dont il est entouré, ni son cadre de vie doré, ou même sa santé fragile. À 16 ans, il joue de toutes sortes d'instruments fantaisistes, parmi lesquels le peignophone, composé d'un peigne et de papier à cigarette. C'est dans la salle de jeu familiale qu'à 18 ans, il monte sa première formation avec ses frères, l'Accord Jazz. Ensemble, ils animent des surprises parties. À 22 ans cependant, Boris Vian obtient son diplôme d'ingénieur sans grande conviction et sans crédit pour ses leçons. Donné par ces professeurs idiots qui vous bourrent le crâne de notions inutiles, compartimentées, stéréotypées. Bon, c'est un secret pour personne. Boris préfère largement les répétitions aux révisions. Il s'inscrit d'ailleurs au Hot Club France, une association destinée à la promotion du jazz présidée par Louis Armstrong, excusez du peu. Et surtout, il apprend à jouer de la trompette. Dans l'intervalle, à peine âgé de 21 ans, Vian se marie. L'heureux élu s'appelle Michel Léglise. La jeune femme, talentueuse, deviendra traductrice mais aussi poétesse. De leur union naîtront deux enfants, Patrick et Carole. Ensemble, ils passent beaucoup de temps avec leurs amis dans les clubs de jazz. Et quand la cave des Azous, leur QG, ferme ses portes en 1947, tous se retrouvent au Tabou. C'est le nouveau repère à Saint-Germain-des-Prés, situé rue Dauphine. Très vite, le Tabou est devenu un centre de folie organisée. Disons-le tout de suite, aucun des clubs qui suivirent n'a pu recréer cette atmosphère incroyable et le Tabou lui-même, hélas. Écrit Vian dans son manuel de Saint-Germain-des-Prés. Rapidement, cette cave devient le lieu de rassemblement préféré de toute la bande. Vian est d'ailleurs surnommé le prince du Tabou. De Saint-Germain, il est, selon la formule usuelle employée à l'époque, le prince d'un petit royaume dont trois cafés et une église marquent les frontières. Un royaume petit, certes, mais au cœur duquel l'effervescence est folle. Dans le Tabou, à table, occupé à partager une danse ou à fumer une cigarette, on peut d'ailleurs observer Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir ou encore Juliette Gréco. Souvent, Vian s'amuse à écrire des pastiches d'articles de presse relatant la vie nocturne de Saint-Germain. Des nuits sortant tout droit du paradis, pour les habitués du Tabou, ou des portes de l'enfer, pour les voisins du quartier. Lorsque la fête battait son plein, il pouvait arriver qu'un peu énervé par le bruit que faisaient en sortant les clients nocturnes, les habitants de la rue Dauphine vidaient avec enthousiasme des pots de chambre copieusement garnis sur la tête des imprudents. Expliquait Boris Vian, amusé. Outre cette vie dans les rues de Saint-Germain, Boris et son épouse, Michel, sont aussi amateurs de surprise parties, des soirées organisées chez un ami qui n'en a pas été prévenu au préalable ou à l'honneur d'une personne qui n'en est pas informée. Pour l'occasion, le couple apportait boisson et surtout, musique. Et quand il n'est ni au Tabou ni chez un ami, Vian est sans aucun doute au Deux Magots ou au Café Flore, une brasserie mythique aux banquettes rouges dans le quartier de Saint-Germain. Nombreux sont les écrivains qui, nuit et jour, viennent y répandre leurs mots et refaire le monde. C'est d'ailleurs ici, au 72 boulevard Saint-Germain, que Sartre invite Vian à devenir membre de la revue Les Temps Modernes, fondée par le philosophe. C'est que la musique n'est pas la seule corde tendue à l'arc de Vian. L'autre, peut-être le premier amour de sa vie, c'est l'écriture.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire de Boris Vian. Boris Vian et son amour pour le jazz, qui résonne dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. Nous sommes dans les années 40, en 1946 pour être exact, et la fête bat son plein. Cependant, la musique n'est pas le seul atout du jeune artiste. Depuis tout jeune, il nourrit une passion pour les mots. Cette passion a été alimentée et nourrie par plusieurs courants de son existence. Durant son enfance d'abord, la famille Vian est une usine à jeux de mots. L'écriture y est un rituel relevant du loisir auquel Boris et ses frères jouent avec beaucoup d'assiduité, créant des clubs littéraires secrets, oscillant entre sérieux et fantaisie. Le jeune auteur en herbe et son frère, Alain, rédigent d'ailleurs l'acte fondateur du cercle Le Gâteux en 1941 et le dote de statut. Mais le canular ne s'arrête pas là. La petite entreprise familiale a un président et des membres qui disposent de cartes attestant de leur affiliation. À cette société secrète sera ajoutée une seconde, à laquelle participe toute la famille. Le cercle Mon Prince, dont le but est de parodier le langage administratif et le journalisme pompeux. Les membres, auxquels se sont joints des amis et voisins, se réunissent pour des tournois. Le père des Vian se révèle lui aussi assidu et passionné des mots, à coups de cadavres exquis et jeux en tout genre. Tout un programme pour les activités dominicales. On pouvait entendre Paul, le père Vian, dire « Voici les mots sélectionnés pour se bourrimer. » « Oh Boris, écoute, cesse de chuchoter dans l'oreille de ton frère. Alors tenez-vous prêts, soyez attentifs. » Écoutez, les voici. Hospice, troupier, frontispice, soulier, borda, concordat, minutie, faubourg et Habsbourg. À partir de ces mots, devait être rédigé un court poème improvisé.
Papa, j'ai terminé, je peux ?
Un jeune homme un beau jour consulta les hospices. Quel métier ferait-il ? Serait-il troupier ? Son nom s'inscrirait-il plutôt au frontispice d'un bouquin poussiéreux ? Vendrait-il des souliers ? Étant jeune, il pensait préparer le borda. Les marins sont un peu de l'aristocratie. Prêtre ? Il fallait compter avec le concordat. Horloger ? Son travail manquait de minutie. Pour finir, il fréquenta dans le faubourg la fille et l'épousa du dernier des Habsbourg. Mais ce qui sera déterminant dans la passion et la carrière d'auteur de Vian, ce sera également son histoire d'amour avec son épouse, Michel. La jeune femme a une certaine familiarité avec les mots et a notamment déjà écrit des articles. Dès 17 ans, elle s'était lancée dans l'écriture d'un roman. Au quotidien, elle participe à l'élaboration des ouvrages de son mari, notamment en dactylographiant ses manuscrits. Mais ce n'est pas tout. C'est également elle qui lui fait découvrir la langue anglaise et la voix qu'offre la traduction. Ensemble, ils traduisent d'ailleurs plusieurs ouvrages et écrivent des scénarios. « Pour rire », disent-ils. Et puis et surtout, c'est Michel qui inspire à son époux le personnage sans doute le plus emblématique de Vian, Chloé, héroïne de son roman « L'écume des jours ». C'est d'ailleurs à elle qu'il dédie le livre. Quelques mois plus tôt, Michel était tombé gravement malade et a dû subir en urgence une opération de la thyroïde. Du haut de ses 23 ans, mère d'un jeune enfant, ses jours sont en danger. Boris est désespéré, désemparé, complètement perdu. Là est le berceau de l'écume des jours. Chloé tombe malade, tandis que Colin, son époux, est au bord du gouffre. À l'époque, Boris venait de quitter son poste de normalisateur à l'AFNOR, l'Association française de normalisation. Son travail consistait à s'occuper des différentes normes en vigueur concernant la verrerie, section dans laquelle il est engagé. C'est là qu'il découvre le quotidien de travail de bureau. Las, il démissionne et entre à l'Office professionnel des industries et des commerces du papier et du carton. Son salaire est plus élevé, son travail plus léger, ce qui lui permet de se consacrer plus amplement encore au jazz et à la littérature. C'est ainsi qu'en 3 mois, entre mars et mai 1946, Boris écrit ce qui sera un des romans les plus célèbres de la langue française et sans doute celui écrit le plus rapidement de l'après-guerre. À l'époque, le jeune auteur n'est pas à son premier essai. Dès le début des années 40, il s'est consacré à l'écriture d'autres livres, dont « Vers coquin » publié chez Gallimard, mais qui n'obtiendront cependant que peu, voire pas de succès. Mais ce livre est différent, Vian le sent et surtout, il l'espère. Et puis, cette œuvre, il y a mis beaucoup de lui. Cet univers enchanteur dont les lois sont absurdes mais impitoyables, sur fond de jazz et d'amour fou. Et surtout, cette idée de la mort et de la maladie qui rôda autour de son épouse et qui fait partie du quotidien de Boris depuis l'enfance, rétrécissant chaque jour les contours de sa vie. Mais ça, Vian, bien que mélancolique, refuse d'y penser. Pour faire face au tragique, il brandit le loufoque, l'imaginaire et l'extravagant autant dans ses livres qu'il les cultive dans son quotidien. Et puis, ce qui lui ressemble beaucoup aussi dans ce livre, c'est le personnage de Colin, qui est comme Vian dans le réel, un inventeur. Tandis que Colin crée le pianoctel, qui prépare des boissons qui ont le même goût que la musique qu'on y joue, Vian inventait le peignophone dès ses 16 ans ou encore d'autres machines musicales. Parmi celles-ci, un engin qui aurait été capable d'écrire toutes les combinaisons possibles de morceaux et de chansons, rien que ça. Mais revenons à nos moutons. Vian en est sûr, son roman vaut quelque chose. Écrit dans le plus grand des secrets, il souhaite même le présenter au prix de la Pléiade, qui était décernée sur manuscrit. Créé 3 années plus tôt, en 1943, ce prix a pour but de mettre en avant un jeune écrivain en lui offrant une publication ainsi qu'une somme d'argent. L'annonce finit cependant par tomber, coupant le souffle et les espoirs de Vian sous le pied qu'il s'apprêtait à poser dans le petit monde de la littérature. Un autre manuscrit est préféré au sien. La déception est énorme et Boris l'accepte mal. L'écume des jours est tout de même publiée, poussée par Sartre et d'autres amis du milieu. Il n'aura cependant aucun succès et est même un échec commercial. De la reconnaissance, le roman n'en aura d'ailleurs aucune du vivant de Boris. Ce n'est qu'à la fin des années 60 qu'il est reconnu par le public, avant de finalement être élevé au rang de classique incontournable les décennies suivantes. Mais la frénésie d'écriture de Boris ne s'arrête pas là pour autant. Durant l'année 1946, il écrit un autre roman, né d'un défi. Au Café de Flore, il rencontre un matin un jeune éditeur. Ce dernier vient de lancer une maison d'édition et propose à Boris d'écrire un ouvrage dans la même trempe qu'un roman américain qui fait un carton. Il retrace le parcours d'un Américain de 47 ans dans les rues de Paris qui cherche à devenir écrivain du vice. Très cru, très violent, l'ouvrage plaît autant qu'il scandalise l'opinion publique. Il n'en faut pas plus pour titiller la créativité de Vian, un brin subversif. Boris et le jeune éditeur voient ce projet comme un pari. Fabriqué en best-seller en 2 semaines, un roman qui se vend mais qui serait aussi une sorte d'exercice dans la tradition du roman noir américain. L'idée à l'origine du livre naît en à peine 10 minutes et le marché est conclu. Le couple Vian a terriblement besoin d'argent pour subvenir aux besoins de sa famille. Boris ne supporte plus son emploi. Et puis, il rêve depuis plusieurs mois déjà à des achats quelque peu au-dessus de ses moyens. Ah, c'est que Boris aime beaucoup les voitures. À l'époque, motivé par ses différentes raisons et surtout son désir de multiplier les expériences et les projets, Vian propose même d'écrire le livre en 10 jours. Finalement, c'est en 15 jours, du 5 au 20 août, que l'auteur vient à bout de ce pastiche, scène érotique comprise. Pour le titre du roman, il opte pour le sobrement provocateur « J'irai cracher sur vos tombes ». Alors maintenant que le roman est là, il ne reste plus qu'à élaborer concrètement la supercherie. Pour le publier, Vian se munit d'un pseudonyme. Le réel auteur est censé être un certain Vernon Sullivan, un Américain qui aurait remis le manuscrit à Vian en main propre. Boris ne ferait que le traduire. Le livre est présenté dans la presse comme le roman que l'Amérique n'a pas osé publier en raison de sa dimension érotique. Cependant, tout ne se déroule pas comme prévu et la supercherie est vite découverte. Le récit est si cru, voire choquant, qu'on réclame dans la presse des poursuites pénales à l'encontre de l'auteur du livre, jugé attentatoire aux bonnes mœurs. Boris est attaqué en justice en février 1947. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Deux mois plus tard, un fait divers fait la une des journaux. Un homme assassine sa maîtresse et laisse à côté du cadavre un exemplaire annoté du livre incriminé. On accuse Boris d'être un assassin par procuration. Il doit prouver sans plus attendre qu'il n'est pas Vernon Sullivan. Il rédige à la hâte un texte en anglais censé être la version originale de « J'irai cracher sur vos tombes ». Après moult combats judiciaires, le livre est finalement interdit. Dans l'intervalle, le roman a cependant eu le temps de devenir un best-seller, vendu à près de 120 000 exemplaires. Un succès qui a apporté à Boris une belle somme d'argent. Le pari est donc relevé, à tout point de vue. Et malgré les poursuites, Vian n'est pas prêt de s'arrêter là. Si les mots de son alter ego Vernon Sullivan lui ont valu bien des ennuis, ils l'ont momentanément très enrichi. Si bien que, dit-on, c'était Vernon qui faisait manger Boris. Et ce pseudonyme n'est d'ailleurs qu'un parmi les dizaines d'autres empruntés par l'auteur. Joël Bossé, Bison Duravi, Claude Varnier, Eugène Minou, Grand Capitaine, Anatof ou même Honoré Balzac. Plus de 27 ont pu être dénombrés qu'ils aient été utilisés pour signer des articles, des romans ou des chroniques de jazz. Quant aux noms choisis par Vian, ils ne le sont jamais au hasard et sont souvent le fruit de jeux de mots, de références, sont liés au style ou au lieu de sa production. Mais à l'époque, il n'y a pas que les scandales judiciaires et moraux qui ébranlent le quotidien de Boris Vian. Une autre rupture plane dans l'air. Une rupture d'un autre ordre, intime, sentimental, amoureux cette fois. Comme s'est évanoui l'amour de Colin et Chloé, séparés par la maladie et la mort, l'histoire de Boris et Michel s'érode peu à peu. Au fil du temps, une certaine lassitude s'est installée. Les folles années de Saint-Germain-des-Prés sont derrière eux et avec elles, la passion des premiers jours. Les fins de mois sont souvent difficiles et le romancier passe parfois par des phases dépressives et mélancoliques quand il ne pique pas à son épouse des crises de jalousie. Derrière une apparente timidité, Vian est pourtant lui-même très séducteur et ne manque pas de tromper son épouse. À la fin de leur idylle, le couple laisse depuis quelques mois déjà des histoires intimes se développer en dehors du cadre marital. Michel commence une histoire avec Jean-Paul Sartre, l'ami du couple Vian depuis des années. Elle s'étirera sur plusieurs décennies, en dépit du mariage de Sartre avec Simone de Beauvoir. Malgré son physique de notoriété publique plutôt ingrat, Sartre est lui aussi un grand séducteur. En 40, il écrivait déjà ceci. « La grande affaire pour moi fut d'aimer et d'être aimé. Et ce qui me charmait avant tout, c'était l'entreprise de séduction. » Une entreprise qui resta pérenne sa vie durant. Son histoire avec Michel ayant duré jusqu'à sa mort. De son côté, Vian n'est pas en reste. Le 6 juin 1950, à une soirée organisée par la célèbre maison d'édition Gallimard, Boris fait une rencontre qui marquera un nouveau tournant dans sa vie. Là-bas, il croise la route d'une ravissante femme, Ursula Kübler, danseuse au ballet de Paris. Il en tombe éperdument amoureux. La flamme du couple Vian vacille irrémédiablement et Boris quitte Michel. Cette dernière raconte. C'est Boris qui m'a quitté, en avril 1951. Il a emporté les Marcel Aimé, les Queneaux, les disques d'Ellington et de Fats Waller. C'est tout. Et puis l'arrache-cœur qu'il n'arrivait pas à finir. Le divorce s'est très mal passé, c'était moche. Il se sentait coincé. Cette rupture avec celle qu'il a tant aimée marque une rupture également dans le parcours créatif de l'artiste. Il y a vraiment une coupure dans sa vie. Les romans et les poésies, il les a écrites avec moi, raconte celle qui est alors son ex-épouse.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire de Boris Vian, le jazzman. Boris Vian, l'auteur, l'inventeur, le chanteur, mais aussi Boris Vian, l'amoureux. Après un douloureux divorce avec la mère de ses enfants, Michel, dont il partageait la vie depuis une dizaine d'années, l'ensemble de ses repères est chamboulé. Le milieu littéraire lui tourne le dos et le déçoit. Le temps de Saint-Germain est révolu. C'est une nouvelle vie que doit s'inventer Boris. Quelques mois plus tôt, précipitant son divorce, Boris rencontre Ursula Kübler, danseuse au ballet de Paris, dont il tombe follement amoureux. C'est une femme de caractère et très indépendante. Boris est d'abord très intimidé. Ensemble, ils vivent des années difficiles. La santé de Boris se détériore et les soucis financiers jalonnent leur quotidien. Il parvient tant bien que mal à finir son roman « L'arrache-cœur », mais il est refusé par Gallimard. Publié par une autre maison d'édition, il n'a finalement aucun succès. Seul Vernon Sullivan connaît la gloire. Tout ce que Boris vit en signe de son véritable nom, la seule littérature qui vaille véritablement la peine à ses yeux, reste dans l'oubli et ne récolte que l'indifférence. Boris est au fond du trou. Il sombre dans la dépression et renonce à la littérature. Il vit alors assez difficilement de ses traductions ainsi que de quelques articles dans diverses revues. Il parvient cependant à écrire des pièces qui connaîtront un certain succès. Avec Ursula, ils vivent dans une chambre de bonne, boulevard de Clichy à Paris. Malgré ce quotidien difficile, leur amour ne faiblit pas, bien au contraire. Boris lui dédie d'ailleurs ce qui sont sans doute parmi ses plus beaux mots d'amour dans son poème « Je voudrais pas crever », écrit en 1952. Alors écoutez, écoutez seulement. Je voudrais pas crever, avant d'avoir usé sa bouche avec ma bouche, son corps avec mes mains, le reste avec mes yeux. J'en dis pas plus, faut bien, rester révérencieux. Je voudrais pas mourir, sans qu'on ait inventé les roses éternelles, la journée de 2 heures, la mer à la montagne à la mer, la fin de la douleur. Après plusieurs années de haut et de bas, le couple se marie le 8 février 1954 à la mairie du 18e arrondissement de Paris. Il déménage dans la foulée au 6 bis, cité Véron. Quelques mois avant, Boris et Ursula ont découvert les loges du cabaret du Moulin Rouge, situé au fin fond d'une impasse. Ils tombent immédiatement sous le charme du lieu. L'appartement est petit, mais l'espace leur paraît immense comparé à leur ancien chez eux. Pour eux, c'est le paradis sur terre. Au fil du temps, Boris procédera à de nombreux aménagements et agrandissements pour rendre leur chez-eux encore plus accueillant. Ah, c'est que Boris est très grand et qu'il a une fâcheuse tendance à se cogner partout. L'organisation de l'espace est donc primordiale pour lui. Et anecdote qui vaut le détour, Boris constate, après avoir construit la salle de bain, que la baignoire ne rentre pas dans la pièce. Il décide alors tout naturellement de faire un trou dans le mur pour l'y faire passer. Le bain est alors disposé à cheval entre 2 pièces, une partie dans la salle de bain et l'autre dans la chambre à coucher. Dans l'appartement, on trouve aussi des centaines de livres, des dictionnaires en pagaille, des tableaux surréalistes et des instruments de musique. Dans un coin traîne un piano bastringue. Dans un autre, une guitare lyre. Non loin de leur appartement, les deux frères de Vian ont installé un magasin d'instruments de musique anciens, exotiques ou étranges. Et inutile de préciser que Boris y passe beaucoup de temps. Dans le salon, on découvre aussi de nombreux 78 tours, dont une grande partie sont des enregistrements de jazz. Au fond de la pièce se trouve le bureau de Boris. Et juste à côté, une télé dont l'écran est dirigé vers le mur. Et quand on lève la tête vers le plafond, on découvre un échiquier renversé, une autre passion de Vian. Mais ce ne sont pas les seules particularités de l'appartement. On y trouve aussi une pièce précieuse, même sacrée, la quincaillerie, où l'artiste dispose divers outils et matériaux récupérés à droite ou à gauche. Cet intérieur atypique n'est pas le seul élément qui ravit le couple au 6 bis cité Véron. Peu de temps après leur arrivée, Boris et Ursula ont de nouveaux voisins de palier. Jacques Prévert et son épouse Janine, ainsi que leur chien, Hergé. Ensemble, ils partagent une grande terrasse qui surplombe le Moulin Rouge, adossée à leur immeuble. À l'époque, le célèbre cabaret parisien fondé en 1889 fait salle comble avec son célèbre French Cancan et accueille de nombreux artistes tels que Luis Mariano, Charles Aznavour ou encore Bourvil. Ce petit coin de verdure au cœur de la capitale est surnommé la terrasse des trois satrapes, désignant Vian, Prévert et son chien. Elle devient rapidement un lieu incontournable du monde de la musique et des lettres. Très souvent, on peut notamment y voir l'auteur Raymond Queneau, ami de toujours de Vian, ou encore Miles Davis, compositeur et trompettiste de jazz américain. Les autres y organisent aussi des fêtes du Collège de la Pataphysique, une société fondée quelques années plus tôt et définie comme un collectif de recherche savante et inutile qui promeut la pataphysique, une parodie de science, définie comme la science des solutions imaginaires qui nécessite la désintégration totale pour reconstruire dans l'insolite. Tout un programme, me direz-vous. Dans ce collectif, on trouve en plus de Vian et Prévert, de nombreux artistes tels que le peintre Miro ou l'auteur Ionesco, tous ayant des rôles attitrés, plus loufoques les uns que les autres. Le 11 juin 1953, sur leur terrasse, Vian, Prévert et le chien Hergé sont tous les trois élevés au rang de transcendants satrapes du Collège de la Pataphysique, dans l'euphorie générale. Ce nouveau départ, dans cette nouvelle demeure, est aussi une manière pour Vian de prendre ses distances avec Saint-Germain-des-Prés, sans pour autant entièrement couper les ponts. C'est qu'aujourd'hui, sa vie est autre, mais toujours aussi intimement liée avec la musique et le jazz. En février 1954, il fait d'ailleurs le tour des music halls, et l'année suivante, il fait ses débuts dans la chanson. Vian a alors 34 ans. Cela fait des années qu'il écrit pour des chanteurs à succès. Serge Reggiani, Salvatore Adamo, Henri Salvador, Marcel Mouloudji, pour ne citer qu'eux. Et c'est quand l'un d'eux refuse de chanter un de ses textes que l'idée lui vient et qu'il s'illumine. On peut vous refuser une chanson, mais peut-on vous empêcher de la chanter ? Après la fête dans les caves de Saint-Germain et la littérature, la musique marque le troisième chapitre de l'existence de Boris Vian. Alors oui, des chansons, il en a écrit toute sa vie. Au total, on peut en dénombrer près de 600, un chiffre ahurissant. Mais ce qui change, ce qui fait toute la différence, c'est qu'à cette époque, c'est lui sur le devant de la scène, derrière le micro. Tout démarre d'une première chanson. Cette chanson, Le Déserteur, écrite en réaction à la guerre d'Indochine, est sans doute la plus connue de son répertoire. En décembre 1954, il passe des auditions aux Trois Baudets et un mois plus tard, il monte sur scène. Il finira par chanter à l'Olympia l'année suivante. La musique devient une occupation constante et même prioritaire. Il enregistre ses morceaux dans les studios Philips afin qu'ils soient gravés sur deux 45 tours intitulés « Chansons impossibles » et « Chansons possibles ». À propos de ces deux projets, Georges Brassens déclare « Boris Vian est un de ces aventuriers solitaires qui s'élance à corps perdu à la découverte d'un nouveau monde de la chanson. Si les chansons de Boris Vian n'existaient pas, il nous manquerait quelque chose. Elles contiennent ce je ne sais quoi d'irremplaçable qui fait l'intérêt et l'opportunité d'une œuvre artistique quelconque. J'ai entendu dire à d'aucuns qu'ils n'aimaient pas ça, grand bien leur fasse. Un temps viendra, comme dit l'autre, où les chiens auront besoin de leur queue et tous les publics des chansons de Boris Vian. À la même époque, son parcours dans la musique prend une autre direction quand il commence à travailler pour Philips. D'abord chargé de préparer l'édition d'une série de disques de jazz, il devient ensuite directeur artistique adjoint pour les variétés et puis pour les variétés et le jazz. Il est en charge d'un certain nombre d'artistes dont il doit gérer le répertoire, les enregistrements et la promotion. Là-bas, on loue ses qualités d'auteur et de directeur artistique, mais aussi de dénicheur de talent, d'ingénieur du son ou encore de concepteur de pochettes de disques. C'est à cette époque également qu'il propose d'utiliser le terme « tube » à la place de celui de « saucisson » pour désigner les chansons à succès, terme qu'il jugeait plutôt disgracieux. Avec Henri Salvador, il écrit d'ailleurs une chanson portant ce titre. Et puis « Coup de tonnerre » en 1959. Boris démissionne. Non, le cœur n'y est plus de toute façon.
Il n'en a plus la force. Cela fait bien longtemps qu'il a dû abandonner sa trompette en raison de sa santé. Et puis en 1956, c'est la scène qu'il a dû quitter. Des œdèmes pulmonaires à répétition l'obligent à rester chez lui pour « se reposer », comme disent les médecins. Pourtant, Boris ne sait pas se reposer. Il n'a jamais su. Et même alité, il travaille tout le temps à ses écrits, ses articles, ses chansons, ou bien à des travaux de menuiserie qui le détendent et le passionnent depuis toujours. Malgré lui, Boris s'essouffle. Il doit bien l'admettre. Depuis toujours, il le sent, il le sait. Sa vie durant, il s'est surmené à multiplier les activités pour vivre, tout goûter, parce qu'il savait, que le temps lui était compté. « J'ai un pied dans la tombe et l'autre qui ne bat que d'une aile », écrit-il. Nous sommes le 23 juin 1959. Souffrant le martyr, malgré les avertissements des médecins, Boris ne décélère pas. L'urgence court toujours. La soif de vivre encore. Boris Vian a 39 ans et refuse que ses mots puissent être les derniers. Dans la matinée, il se rend au cinéma Le Marbeuf, près des Champs-Élysées. Plusieurs de ses amis l'ont accompagné pour assister à la première de « J'irai cracher sur vos tombes », film inspiré de son roman éponyme. Vian est contrarié. Le film a été réalisé en grande partie contre son gré et Boris l'a d'ailleurs publiquement dénoncé, annonçant qu'il souhaitait faire enlever son nom du générique. Il ignorera cependant tout de la teneur du long-métrage, après 10 minutes de projection à peine. Quand apparaissent à l'écran les mots « D'après le roman de Vernon Sullivan, traduit de l'américain par Boris Vian », il se lève de son fauteuil furieux et s'effondre. L'arrêt cardiaque est foudroyant. Il ne s'en relèvera pas. Baisser de rideau sur cet artiste protéiforme, amoureux de la vie, de la fête et de l'absurde, définitivement en avance sur son temps. Le Collège de la Pataphysique annonce le décès du transcendant satrape et publie un de ses textes emblématiques. Le 26 juin 1959, Boris Vian est enterré au cimetière de Ville d'Avray, sa ville d'origine. Et puis, ultime coup du sort, les employés du service funéraire se déclarent en grève ce jour-là. Ce sont donc ses amis qui, après plusieurs heures d'attente, sont contraints de mettre eux-mêmes leur cher ami en terre. Souvenir de longues nuits passées, ensemble, dans les caves de Saint-Germain-des-Prés. Voilà donc pour ce récit d'une vie particulière pour le moins, celle de Boris Vian. Un récit que j'ai eu le plaisir de vous partager grâce à la plume de Pauline Chaudat.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.